게 양조론. 양조론.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. En Thaïlande, les inondations submergent des dizaines de milliers d'habitations dans le nord et dans le centre du pays. Au Soudan du Sud, ce sont plus de 400 000 personnes qui ont dû évacuer leur domicile et qui attendent d'être désormais relogées. Dans le nord-est de l'Inde, le fleuve sacré du Brahmapoutre est devenu incontrôlable. Nous vous emmènerons dans l'Assam, dans la vallée justement du Brahmapoutre, alors que le fleuve est à nouveau sorti de son lit. Comme Bastin est allé à la rencontre des habitants qui vivent dans des conditions catastrophiques à ses côtés. J'arrête là la liste, mais les catastrophes dites naturelles font aujourd'hui la une des médias mondiaux. Elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes. Nous en connaissons la cause, c'est le dérèglement climatique. Nous en parlons tout de suite avec notre invité.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Cette semaine, la militante écologiste Greta Thunberg a dénoncé devant 400 jeunes réunis par l'ONU à Milan, en Italie, les 30 années de blabla des dirigeants du monde.
Il n'y a pas de planète B. Il n'y a pas de planète bla. Mieux reconstruire. Économie verte. Neutralité carbone d'ici 2050. Neutralité carbone. C'est tout ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants. Des mots. Des mots qui sonnent bien, mais qui n'ont mené à aucune action.
Bonjour Jean-Pascal Fanny Perzel.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain et ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de 2008 à 2015. Alors, comment réagissez-vous à ces propos de Greta Thunberg qui dénonce le blablabla des dirigeants du monde ?
Écoutez, moi je la comprends, je comprends ces jeunes qui sont extrêmement frustrés par rapport à la lenteur de l'action climatique. On voit bien que les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent à augmenter, on voit bien que les impacts se multiplient partout à la surface de la planète. Vous avez cité plusieurs endroits et il y en a beaucoup d'autres. Et donc je comprends bien ce que Greta a dit.
Alors Greta Thunberg, qui a par ailleurs jugé que la publication du premier chapitre du sixième rapport du GIEC début août ne contenait pas de vraies surprises et ne confirme que ce que disent déjà finalement des milliers d'études, nous sommes dans une situation d'urgence.
Mais elle a raison, hein. Vous savez, Greta, que je connais un peu, est bien informée, elle connaît les rapports précédents du GIEC et... En substance, bien sûr, ce rapport-ci est une mise à jour magnifique, hein, un travail extraordinaire des scientifiques qui l'ont écrit. Mais ça ne fait que confirmer, à donner plus de détails sur une situation dont on connaît la gravité depuis longtemps.
Alors, quelles sont les grandes leçons à retenir de ce rapport, selon vous ?
Et c'est la confirmation du fait que les changements climatiques sont bien en route, qu'on commence à voir de plus en plus d'événements extrêmes de toutes sortes, hein, que ce soit les vagues de chaleur, que ce soit les pluies extrêmement intenses, que ce soit aussi l'élévation du niveau des mers qui s'accélère. Et alors les projections sont de plus en plus précises. Il y a notamment dans ce nouveau rapport un atlas interactif qui permet à chacun d'aller voir dans la région à laquelle il ou elle s'intéresse, quelles sont les projections climatiques pour différents scénarios. Il y a aussi une évaluation de ce qu'on appelle les budgets carbone, donc les quantités de CO2 que l'on peut encore, entre guillemets, émettre si l'on veut éviter un réchauffement de 1,5 degré, dont on sait que c'est l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris et le plus nécessaire si on veut éviter les impacts les plus graves des changements climatiques. Et ces budgets carbone, bien à chaque publication d'un rapport du GIEC, quelque part, ils diminuent, puisqu'avec le temps, comme on continue à émettre beaucoup, eh bien on consomme, l'humanité consomme chaque année qui passe une partie de ces budgets carbone, et donc forcément ces budgets carbone qu'il reste à émettre sont en diminution. Donc le degré d'urgence est maximal, et en des termes très scientifiques, très détaillés, c'est ce que le dernier rapport du GIEC, la dernière contribution au sixième rapport du GIEC confirme.
Alors, vous avez fait tout un travail de pédagogie avec vos collègues belges sur une plateforme-wallonne-giec.be dans lequel vous essayez justement de rendre accessibles ces rapports, parce que ça, c'est un vrai enjeu quand même. À chaque fois, les médias du monde entier expliquent que le nouveau rapport du GIEC vient de sortir. Enfin, c'est chapitre par chapitre. Là, c'était le premier chapitre du sixième rapport. Mais comment est-ce que ces rapports peuvent être aperçus par la population, comment les rendre pédagogues, comment faire en sorte qu'ils sortent uniquement de leur rôle scientifique pour déclencher l'action, c'est ça toute la question.
Ah, c'est effectivement un des enjeux, hein. C'est pour ça que le rapport est précédé par un résumé pour les décideurs, et que ce résumé pour les décideurs lui-même contient une série de messages clés, hein, que l'on peut extraire du résumé pour les décideurs, et qui ensemble forme un ensemble de messages assez forts qui demandent à être lus et qui demandent aussi à être diffusés, compris. Ils devraient faire partie des programmes scolaires dans le monde entier. Il faudrait que l'on mette cette question des changements climatiques, cette question de la dégradation de l'environnement aussi plus largement au cœur de l'enseignement. C'est une opportunité aussi. On peut en fait s'en saisir dans toutes les matières, hein, que ce soit les cours de français, de mathématiques, les cours de sciences, les cours de philosophie. On peut autour de toutes les matières scolaires sensibiliser et faire réfléchir les élèves, les étudiants, les étudiantes à propos de ces questions-là.
Oui, mais les étudiantes et les élèves ne sont pas encore décisionnaires, hein. En attendant, il y a une autre génération qui est au pouvoir. Et à 4 semaines de la COP26, la 26e conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroulera en Écosse, le secrétaire général de l'ONU a annoncé que les engagements nationaux cumulés de 191 pays montrent que le monde est sur un chemin catastrophique vers plus 2,7 degrés de réchauffement. Alors c'est toujours un peu abstrait ces chiffres, mais en gros c'est l'habitabilité de la Terre pour l'humanité qui est en cause. Pourtant, tous ces pays ont signé l'accord de Paris.
Tout à fait. Je partage sa frustration, qui est aussi la frustration de la plupart des scientifiques qui travaillent sur ces questions-là. L'urgence est maximale parce que nous sommes en train d'épaissir une couverture isolante autour de la Terre, et en dessous de cette couverture isolante, il fait de plus en plus chaud. Alors aujourd'hui, la température mondiale s'est déjà élevée de 1,1 degré au-dessus du niveau de la fin du 19e siècle. Donc 2,7 degrés, et ça pourrait même être plus que 2,7 degrés, ce n'est pas seulement près de 2,5 fois plus, c'est bien plus, parce que la gravité des impacts n'augmente pas linéairement avec la température. Je veux dire par là que chaque incrément d'un demi-degré s'accompagne de dégâts plus importants que lors de l'incrément précédent d'un demi-degré. Et donc 2,7 degrés, c'est effectivement un monde beaucoup moins habitable pour des centaines de millions de personnes, en particulier, mais pas seulement, dans les régions tropicales.
Oui, c'est la zone intertropicale qui est la plus touchée. Pourquoi ?
Mais bon, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est déjà une région où il fait naturellement très chaud, et donc où la température ambiante est déjà plus proche de la température maximale que les êtres vivants, mais aussi que les écosystèmes peuvent supporter. On sait aussi que c'est dans cette région-là que l'on rencontre souvent un degré d'humidité important. Et on sait que quand il y a une température qui s'approche de à peu près 35 degrés, degrés, hein, un petit peu moins que la température du métabolisme humain, et qu'on a une humidité proche de 100%, eh bien, on arrive à des conditions qui deviennent insupportables pour la vie humaine, parce que la transpiration, qui est notre mode de régulation de la température, ne peut plus fonctionner si l'humidité est maximale. Et donc, 35 degrés avec 100% d'humidité, eh bien, c'est une température associée à une humidité élevée qui tue en quelques heures. Et donc, dans les régions tropicales, on va malheureusement atteindre plutôt ces conditions insupportables que dans le reste du monde. Alors, ce sont aussi des régions où souvent la vulnérabilité est plus importante parce que le niveau socio-économique est plus bas. Et c'est sûr que c'est plus difficile de supporter des chaleurs terribles quand on n'a pas accès à des systèmes de conditionnement d'air, par exemple, ou quand on est simplement à la rue sans même avoir un toit. Ce sont aussi des régions où l'agriculture est menacée bien plus que dans les régions tempérées par le dérèglement du climat. Donc pour toute une série de raisons, les régions tropicales sont plus menacées par le réchauffement climatique que les autres, ce qui ne veut pas dire, et ces derniers mois l'ont malheureusement douloureusement montré, que les régions tempérées sont à l'abri des impacts du dérèglement climatique.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Jabbas par le chanteur indien Pratik Kuad dans ses pas du vent sur RFI.
RFI.
Overwhelming consensus on global warming.
Climate is changing, weather patterns are changing, and that over the long term will have these.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
I'm worried about the future we're going to leave to our children.
Des questions, des réactions. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
For centuries, the rays of the sun have warmed.
And start to prepare.
À moins de 5 semaines de l'ouverture de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré que l'échec à respecter les engagements des États qui ont signé l'accord de Paris se mesurera à l'aune du nombre de morts et des moyens de subsistance détruits. Des propos qui résonnent dans de nombreux endroits du monde. Je vous propose par exemple de nous rendre dans l'Assam, un État du nord-est de l'Inde, coincé entre la Birmanie, la Chine, le Bangladesh et le Bhoutan. C'est là que coule le fleuve sacré du Brahmapoutre, connu pour ses crues capricieuses. Mais depuis 10 ans, le turbulent fleuve est hors de contrôle, sous l'effet du changement climatique, de la bétonisation des sols, de la course aux infrastructures entre l'Inde et la Chine dans l'Himalaya. Ces crues deviennent de plus en plus imprévisibles et de plus en plus dévastatrices. Les habitants de la vallée en sont les victimes impuissantes. Ils vivent aujourd'hui dans des conditions catastrophiques. Comme Bastin est allé à leur rencontre.
Sous une chaleur moite et écrasante, la capitale de l'Assam, Guwahati, semble fonctionner normalement. Pourtant, il suffit d'emprunter l'autoroute de l'Asie et de rouler une heure vers la vallée du Brahmapoutre pour constater la crise qui s'abat à nouveau sur la région. Donc on est dans un parc national et au bord de la route qu'il traverse, il y a des habitations de fortune. Bonjour, où est-ce que vous habitiez auparavant ?
Ça fait 10 jours que nous vivons sur le bord de la route. Il y avait une centaine de familles dans mon village de Poubdeopani. Elles sont toutes forcées de vivre ici désormais. Nous avons aussi perdu nos vaches et nos chèvres, emportées par les flots. Le gouvernement nous a fourni une pompe à eau, mais l'eau n'est pas propre parce qu'on n'a pas de filtre. On nous a donné quelques kilos de riz par-ci par-là, mais c'est très difficile.
Comme quelques 600 000 habitants, Anjuma et sa famille sont victimes des inondations monstres qui frappent cet État après une semaine de pluie intense. En ce début du mois de septembre, quelques 1 200 villages seraient sous l'eau du Brahmapoutre qui traverse le nord-est indien avant de rejoindre le Gange au Bangladesh.
On est 6 avec les enfants ici. Pas d'électricité, pas de toilettes. On a acheté du kérosène à 80 centimes d'euros pour pouvoir s'éclairer. Pour se laver, on prend une barque et on va dans l'eau. Il y a aussi énormément de moustiques et d'insectes. Certains attrapent des maladies digestives. Mon bébé a eu une grosse fièvre depuis que l'on vit ici. J'ai peur qu'il tombe dans l'eau, alors je l'ai attaché au pilier en bambou.
Et avant d'atterrir là, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous étiez fermier, agriculteur dans la région ?
Nous sommes tous des agriculteurs et travailleurs saisonniers et nous avons été surpris par la montée des eaux. Avec le Covid et le confinement, ce n'était déjà plus possible de travailler. Aujourd'hui, à cause des inondations, toutes nos cultures sont mortes ou endommagées. Il va falloir au moins un mois pour que l'on puisse regagner nos maisons et nos champs. Donc au total, ce seront 6 mois de travail perdu. Je ne sais pas comment on va s'en sortir.
L'Assam fait partie du nord-est de l'Inde, une région enclavée, coincée entre Birmanie, Chine, Bhoutan et Bangladesh. Depuis des années, le gouvernement indien veut faire de cet état stratégique un carrefour avec l'Asie du Sud. La plupart des habitants pratiquent cependant l'agriculture vivrière, totalement dépendante du grand fleuve.
D'habitude, on peut venir ici en voiture ou en vélo, mais en ce moment, il faut prendre une barque. Vous pouvez voir ici des jacinthes d'eau passer sur la route. Elles envahissent les récoltes.
Probin Pegu est un agriculteur du village d'Agaratoli. À 26 ans, il a pu continuer ses études jusqu'au lycée et parle un bon anglais. Il nous invite à monter en barque pour aller voir ses champs engloutis.
There are so many water till the end.
Regardez l'eau qui s'étend à perte de vue. Tout est perdu cette année. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous avons aussi perdu les plans pour la prochaine récolte. Si le gouvernement ne nous aide pas, nous allons mourir de faim. Ici, on fait pousser du riz. Nous en sommes totalement dépendants. Certains le vendent sur les marchés ou dans des coopératives. Mais moi, je fais simplement pousser pour ma famille. Tout est sous l'eau. Il y a des crues tous les ans. Mais cette année, elle est venue très tard. Nous pensions qu'il était temps de planter, que la mousson était finie. Cela coûte environ 400 euros de lancer une nouvelle récolte. Et cela prend beaucoup de temps, évidemment.
Long de près de 3000 km, le Brahmapoutre est alimenté par des dizaines d'affluents dans l'Himalaya chinois et indien, ainsi que par l'eau des moussons. Mais sous l'effet du changement climatique, les pluies deviennent de plus en plus erratiques, pendant que la fonte des glaciers de l'Himalaya s'accélère chaque été. En conséquence, la vie dans la vallée devient impossible.
Le changement climatique est là, et cette année nous le montre encore. Il y a eu très peu de pluie et une crue soudaine. D'autres années, il y avait trop de pluie. C'est devenu imprévisible. Le nombre de crues varie beaucoup d'une année à l'autre. Planter dans ces conditions, c'est comme jouer au poker.
Dadou Douta est coordinateur pour l'ONG North East Affected Area Development Society. Il nous a donné rendez-vous dans le village éloigné de Jajimuk, pas loin duquel plusieurs rivières se jettent dans le Brahmapoutre.
La situation est très difficile pour les habitants des plaines inondables. Ici, l'agriculture est la principale source de revenus. Lorsque les récoltes sont détruites, tout est perdu. Les paysans doivent devenir travailleurs journaliers dans les villes. Très peu de gens travaillent pour le gouvernement ou dans les services. Il y a des écoles, mais elles sont trop loin et souvent détruites par les pluies. Beaucoup d'enfants s'arrêtent de toute façon très tôt pour aider dans les champs. L'infrastructure de santé s'améliore, mais en cas d'inondation, il est impossible de se rendre dans les centres de soins. L'hygiène devient catastrophique et ceux qui tombent malades sont bloqués sur place, sans eau potable.
Ça fait presque une heure qu'on roule sur cette route qui apparemment a été construite par le gouvernement suite aux inondations il y a 2 ans. Elle est surélevée et donc à gauche et à droite on voit des petites maisons, les pieds dans l'eau. Et puis on est entouré par le bétail qui a trouvé refuge sur cette zone immergée. Ensuite à perte de vue autour de nous, des cultures qui sont sous l'eau. On est arrivé dans une petite cabane en terre, typique de la région, sur pilotis, pour pouvoir continuer à vivre lorsque l'eau occupe tout. Et il y a un fermier qui a accepté de nous parler de sa situation. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Bachalal Chaudhuri, j'ai 73 ans. Ma famille étendue compte 21 personnes dans ce village appelé Attilal Bihari. Je suis né dans le Bihar et mes parents ont migré dans l'Assam lorsque j'étais très jeune. Mon père est venu pour travailler dans les ferries sur le Brahmapoutre il y a 60 ans. Cela fait donc 50 ans que je vis ici.
Et ensuite, cette compagnie a fermé, donc vous vous êtes converti à l'agriculture.
Oui, après un tremblement de terre, le transporteur a fait faillite. Alors, faute d'options, nous nous sommes mis à planter. Nous vivons de l'agriculture depuis si longtemps que je ne sais plus quand nous avons commencé.
Donc vous, ça fait un moment que vous cultivez du riz dans ce village. Est-ce que vous avez vu le comportement du fleuve changer au fil des années ?
Oui, sur les 2 dernières décennies, cela saute aux yeux. Des inondations, bien sûr, il y en avait aussi quand j'étais petit. Mais ce n'était pas aussi intense, et seulement 1 ou 2 fois par an. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et le niveau est de plus en plus haut. Autrefois, on pouvait aussi sentir la crue arriver. Désormais, c'est imprévisible. L'année dernière, par exemple, on a eu 5 inondations. Cette année, à l'inverse, nous en avons eu une seule et gigantesque. Cela nous pourrit la vie. Dès qu'on plante parce que l'eau reflue, nous sommes surpris par une nouvelle montée des eaux et nous perdons la récolte.
On peut voir que dans le coin, toutes les maisons sont construites en bois et sur pilotis. C'est pour pouvoir passer la saison des pluies sans être inondé.
Ici, vous voyez, si l'on n'avait pas construit en hauteur, nous serions toujours sous l'eau. Toutes les habitations sont surélevées dans la région. Malgré cela, l'eau continue de rentrer dans les foyers. Le niveau monte de plusieurs mètres selon les périodes de l'année. La plupart du temps, nous en avons jusqu'aux genoux. Cette année, nous avons dû fuir pendant une semaine.
Pole pole nobo nobo sitra
O sira prabha hita boi jua brahma re putra Tumi srishti re putsa O pranamu brahma putra
Namami brahma putra.
Retour à la capitale pour rencontrer Mirza Zulfikur Rahman. Ce chercheur, associé au Chinese Institute de New Delhi mais basé à Guwahati, se consacre à l'étude de l'impact du dérèglement du Brahmapoutre sur les populations de l'Assam.
J'entretiens une relation très particulière et profonde avec ce fleuve. J'ai grandi au fil du fleuve. Quand j'étais jeune, j'allais sur les berges passer des heures à l'observer avec mes amis. De la même façon, pour les populations qui vivent ici, le fleuve est le sujet de conversation quotidien. Beaucoup de chants populaires racontent ces histoires.
Ça, c'est très intéressant. On l'a vu, comment ces populations, elles vivent avec les flux et les reflux du fleuve. Elles ont une architecture qui est adaptée à cela. Et pourtant, aujourd'hui, elles n'arrivent plus à s'en sortir.
C'est vrai. Les communautés du Brahmapoutre ont un savoir-faire ancestral. Cela a toujours fait partie de leur culture de migrer lorsque la crue arrive. Le problème, c'est que la civilisation moderne a débarqué ici avec sa pensée du progrès scientifique et technique. Ces deux modes de connaissance devraient travailler en symbiose. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on voit, c'est de plus en plus d'interventions sur le cours du fleuve, avec la construction des barrages et de digues géantes, sans concertation avec les populations locales. Avec le temps, cela accentue la pression sur la rivière et les risques de crues. Il n'est désormais plus rare d'entendre parler de familles qui doivent fuir 5 fois par an dans 5 endroits différents.
Conséquence directe de ces crues permanentes, l'érosion des sols s'accélère dans la région. Selon les chiffres officiels du gouvernement de l'Assam, le Brahmapoutre grignote 80 km² chaque année. Depuis l'indépendance indienne, ce sont donc 4000 km² qui auraient disparu, soit plus que le petit état indien de Goa. Depuis la rive de Jajimukh, Dadu Dutta décrit ce phénomène.
L'érosion est un problème majeur. C'est ici que les rivières de Janji et Mitong rejoignent le Brahmapoutre. La rive que vous pouvez voir, de l'autre côté de l'eau, abritait de grands manguiers. Mais ils ont été emportés parce que la rive a reculé de plusieurs mètres ces 2 dernières années. Les gens venaient se réfugier ici durant les inondations. Mais ce n'est plus un terrain sûr. Beaucoup de villages ont été rayés de la carte ces dernières années. Et 90 000 personnes ont perdu leurs terres. L'endroit où nous nous trouvons en ce moment pourrait aussi disparaître.
En plus de faire fondre les surfaces cultivables, le fleuve qui fertilise traditionnellement les sols transporte désormais des composants dangereux.
La rivière charrie beaucoup de sable et de résidus de chantier. Une des causes pourrait être les travaux qui ont lieu dans les collines et les montagnes aux alentours. Après des années de dépôt, le lit de la rivière est rempli. Le sable passe dans le courant et stérilise aujourd'hui les récoltes.
Face à ce fleuve qui devient incontrôlable, le gouvernement tente d'agir. Mais les solutions d'adaptation déployées sont parfois un peu désespérées. Dadu Dutta nous fait rouler jusqu'à un village englouti par les eaux.
Ce hameau surélevé a été construit par l'État pour accueillir des familles. En 2007, d'immenses inondations ont provoqué un changement de cours du fleuve et leur village a été rayé de la carte par l'érosion. Environ 40 familles ont pu trouver refuge en se déplaçant dans ces maisons financées par le gouvernement. Mais comme vous pouvez le voir, cela ne suffit plus face à la taille des crues d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'eau est là pendant 6 mois par an. Construire toujours plus haut, ça ne peut pas être une solution.
Pour canaliser le Brahmapoutre, le gouvernement multiplie également les digues et les routes surélevées. Objectif, protéger certaines zones de la montée des eaux et accueillir les villageois et leur bétail pendant les crues. Mais de l'avis des habitants, ces constructions finissent par faire empirer la situation. Un pêcheur local témoigne.
J'étais agriculteur, mais j'ai tout perdu. Depuis, je travaille comme maçon sur des chantiers, mais en ce moment, il n'y a plus de boulot. Alors, je me suis mis à la pêche. Avant, les crues venaient lentement et on avait le temps de ramasser son matériel et de se préparer à bouger. Depuis 10 ans, on doit partir immédiatement, sous peine d'être prisonnier des eaux. À mon avis, c'est parce qu'il y a de plus en plus de barrages autour du fleuve, comme celui géré par l'entreprise NEPCO dans le Nagaland, qui relâche de l'eau dès qu'il se met à pleuvoir.
Un autre agriculteur accuse directement les digues d'avoir inondé son terrain.
La situation est de plus en plus précaire parce qu'il y a une écluse pas loin. Ce mécanisme sert à contrôler le flot de l'eau. Mais en réalité, cela empire la situation pour nous. Comme elle est construite en hauteur, dès qu'elle déborde et doit être ouverte, on reçoit encore plus d'eau, encore plus rapidement. Sans cette écluse, l'eau aurait pris un autre chemin, plus tranquillement. Et une fois de plus, mes récoltes sont détruites.
Malgré une situation économique de plus en plus précaire, la plupart des habitants ne se rendent pas dans les camps de réfugiés du gouvernement, ou alors en dernier ressort. Ils refusent d'abandonner leur foyer et attendent la décrue à proximité de leurs champs, espérant sauver une partie de leur récolte, quitte à vivre dans des conditions d'hygiène parfois catastrophiques pour des semaines, sans pouvoir accéder aux moindres soins, comme Anjuma Begum.
C'est vrai que chaque année, l'eau détruit nos récoltes, mais on n'a pas d'autre choix que de rester là et de replanter quand même. Si on avait un peu d'argent, on aurait pu louer une chambre dans une ville alentour, planifier les choses, mais nous sommes livrés à nous-mêmes, donc on ne peut que planter et prier en restant à la merci de la météo.
Généralement peu éduqués, les paysans du Brahmapoutre peinent à savoir si le changement climatique est à l'œuvre dans la région. Mais ils pointent avec insistance la responsabilité des infrastructures qui se multiplient et de la bétonisation des sols. Le chercheur Mirza Zulfikour Rahman abonde en ce sens.
Le changement climatique est présenté comme la cause du désastre. Mais il y a aussi les changements anthropiques liés aux activités humaines qui contribuent également beaucoup à ces inondations. Il faut remonter au grand tremblement de terre de 1950 qui a réduit la navigabilité du Brahmapoutre et submergé de nouvelles zones. Le gouvernement indien, tout juste indépendant, s'est alors mis à bétonner les berges du fleuve, notamment pour protéger les raffineries et les plantations de thé. C'était une solution d'urgence. Mais avec le temps, les couches de construction se sont accumulées. Cela a concentré et augmenté le flux du Brahmapoutre. Lorsqu'on intervient sur un cours d'eau sans comprendre son cycle, on finit par créer un sacré bordel.
À côté de cette vague de construction dans la vallée, la tension croissante avec le voisin chinois dans l'Himalaya aggrave aujourd'hui la folie du fleuve. L'Inde et la Chine ne parviennent pas à s'entendre sur le tracé de leurs frontières dans l'état de l'Arunachal Pradesh, au nord de l'Assam. Ces dernières années, de nombreux clashs militaires ont éclaté, laissant présager le pire. Mais c'est plutôt une guerre froide qui se joue désormais entre les deux géants asiatiques sur le toit du monde.
Le Brahmapoutre est devenu un fleuve à haute valeur spéculative. Les entreprises se précipitent pour construire des barrages sur ses affluents. Mais c'est aussi un instrument de rivalité géopolitique entre l'Inde et la Chine. Dès que la Chine lance un projet dans l'Himalaya, l'Inde en annonce un aussi. Cette course au barrage est en train de détruire tout l'écosystème de l'Himalaya. Et c'est ça la grande crainte des habitants. Victimes impuissantes du changement climatique, de rivalités frontalières et d'une approche trop technicienne de l'environnement, les peuples du Brahmapoutre se désespèrent. Il n'a pas pu les soutenir à New Delhi, mais le jeune Probin Pegu se sent solidaire de la révolte des agriculteurs en cours en Inde depuis 9 mois.
Avec le confinement, on n'a pas pu travailler normalement pendant un an et demi. Cela affecte aussi l'éducation. On est censé suivre des cours en ligne, mais ici, il n'y a même pas d'électricité. Pourtant, les examens ont été maintenus. Évidemment, ils se sont mal passés. Il y a pourtant de bons élèves ici. Il y a aussi beaucoup de paysans qui ont contracté des prêts pour replanter. Mais comment voulez-vous qu'ils remboursent désormais? Si le gouvernement ne les aide pas, ils vont mourir. En tout cas, cette fois, c'est sûr, les jeunes vont partir de l'Assam pour survivre.
Depuis sa hutte, le septuagénaire Bachalal Chaudhuri affiche lui aussi un défaitisme résigné.
C'est impossible de vivre de l'agriculture désormais. Moi, je suis trop âgé, alors je continue. Mais parmi mes trois fils, seul un m'aide encore dans les champs. Les deux autres sont partis travailler à l'usine et dans un chantier naval.
Vos enfants qui sont obligés d'aller en ville pour trouver du travail parce que ça devient de plus en plus dur de vivre de l'agriculture, c'est pareil dans tout le village.
Ici, tous les jeunes sont partis. Il n'y a plus rien pour eux au village. La situation ne va pas s'améliorer. Nos racines et nos traditions vont mourir.
Malgré la difficulté de la situation, l'humanitaire Dadoudouta et son équipe veulent montrer qu'il est possible d'aider les habitants à faire face à la nouvelle donne climatique.
La North East Affected Area Development Society est une ONG lancée en 1985. Nous sommes une centaine de travailleurs sociaux au service des populations affectées par les inondations et l'érosion des terres. Nous promouvons d'autres méthodes agricoles, par exemple, de ne pas planter avant les inondations. Nous essayons de les faire passer à des variétés de riz qui se récoltent plus rapidement avant les pluies. Nous distribuons des stocks de vivres aux familles. Nous encourageons enfin les jeunes à poursuivre leurs études pour pouvoir décrocher des emplois dans le secteur des services.
De quoi alléger les souffrances des locaux, mais pour traiter les problèmes à la racine, Mirza Zulfikour Rahman appelle lui à partir du point de vue des populations affectées.
Pour nous en sortir, il nous faut une démocratie environnementale. Tous ces barrages géants en construction se font sans consultation avec le public, ni étude d'impact écologique. On se contente d'expliquer aux populations qu'un barrage va être construit et on leur demande combien elles veulent en compensation. Il nous faut aussi sauvegarder les connaissances traditionnelles de ces peuples. Les agriculteurs vivent depuis des siècles avec les caprices du fleuve. Il faut dépenser plus d'argent pour comprendre le Brahmapoutre plutôt qu'intervenir dessus. On n'a plus de temps à perdre. La situation devient catastrophique et les habitants ne sont plus capables de vivre décemment.
Mi-septembre, les inondations sont terminées et la plupart des habitants ont pu regagner leur foyer. Tous savent cependant que ce répit sera de courte durée.
Jean-Pascal Van Iberzel, je rappelle que vous êtes climatologue, professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain et ancien vice-président du GIEC de 2008 à 2015. Comment réagissez-vous à ce reportage de Combastin ?
Ça me rappelle des scènes que j'ai vues il y a quelques jours ici en Belgique, en Wallonie, hein, où des inondations terribles ont eu lieu à la mi-juillet suite à des précipitations particulièrement intenses. Et on a démontré maintenant que ces précipitations intenses étaient bien liées, facilitées, intensifiées par le dérèglement du climat. Et les dégâts sont absolument terribles, les conséquences humaines, hein, il y a tout de même eu près de 200 morts en Allemagne et en Wallonie en quelques heures à la mi-juillet cet été. Les conséquences sont terribles. On a des milliers de maisons qui sont devenues instables en Wallonie. Et bien sûr, les conséquences d'événements extrêmes comme ceux que vous avez vus en Inde sont quelque part encore pires à supporter parce que les moyens financiers sont beaucoup moins présents dans ces régions-là. La vulnérabilité est plus grande. Et là aussi, dans les rencontres que j'ai faites, la visite que j'ai faite il y a quelques jours en Wallonie, on a aussi une combinaison de facteurs climatiques et de facteurs humains, parce que on accuse aussi la mauvaise gestion des barrages qui auraient relâché trop d'eau maladroitement à un moment donné, ce qui aurait aggravé les inondations. On accuse aussi, à juste titre, je pense, la bétonisation de trop de surface, le manque de respect pour la nature, les capacités d'absorption des sols, notamment les sols agricoles. Et donc, cette problématique que vous avez rencontrée en Assam, eh bien, on la rencontre avec des accents différents, évidemment, chez nous. Et je suis sûr qu'on la rencontre, on peut la rencontrer aussi dans d'autres régions du monde, en France notamment.
Et donc, c'est appelé finalement à faire de plus en plus la une des journaux, toutes ces catastrophes ?
Oui, et en même temps, ce n'est pas une fatalité, parce que c'est tout de même une des bonnes nouvelles contenues dans la dernière contribution au dernier rapport du GIEC, c'est que l'avenir est encore largement entre nos mains. On peut éviter les pires impacts à venir si on arrivait à se mettre sur une trajectoire beaucoup plus basse d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est un des enjeux de la COP26 à Glasgow, hein, c'est de relever le niveau d'ambition en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de financement climatique, en termes d'augmentation de la résilience par rapport au choc climatique. Et nous avons, en tant qu'humanité, la possibilité d'aller sur cette voie-là, plutôt que de rester sur celle du modèle de développement que nous avons maintenant et qui est associé à une consommation très élevée de combustibles fossiles. C'est possible, c'est ce que le dernier rapport du GIEC a montré aussi.
Oui, c'est possible. Cela dit, hier, dans C'est pas du vent, nous parlions de l'Arctique, où voilà, les appétits sont très aiguisés pour aller explorer les sous-sols pleins de pétrole et de gaz que dégage la fonte de la banquise. Donc là, c'est quand même un cercle vicieux et une situation... si c'était humoristique, on pourrait dire ironique. Et puis, à côté de ça, il y a en Ouganda Total qui prévoit de lancer d'ici 3 ans et demi l'exploitation de champs pétrolifères en bordure d'un des plus grands lacs d'Afrique, le lac Albert. Et du coup, il y a une militante ougandaise qui s'appelle Hilda Flavia Nakapouye, qui est une militante aux côtés de Greta Thunberg, qui a adressé une lettre à Emmanuel Macron, le président français, et à Patrick Pouyanné, le PDG de Total, en les suppliant, en disant « Vos intérêts économiques mettent en cause des millions de vies. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas en enfer. Laissez nos rêves devenir réalité. » On voit de plus en plus ce combat entre la jeunesse qui s'inquiète et, j'ai envie de dire, l'immobilisme des décideurs en place. C'est inquiétant, non ?
Tout à fait. Je crois que ce que le dernier rapport du GIEC a montré une fois de plus, c'est qu'on ne pouvait pas se permettre de continuer à chercher de nouvelles ressources en matière de combustibles fossiles, parce qu'on en connaît déjà beaucoup trop, quelque part, pour faire cuire la planète à petit feu. Et donc, si on veut éviter ce réchauffement de 2, 3, peut-être même plus degrés Celsius à la fin du siècle et au-delà, eh bien, il faut absolument laisser les combustibles fossiles, un maximum des combustibles fossiles, dans le sol et passer à des énergies plus propres, principalement des énergies renouvelables. Et donc, la COP26 va être très importante à cet égard-là. Il faut des engagements à refuser de continuer à aller sur la voie de l'exploitation des combustibles fossiles.
Alors, je crois que vous allez dans les COP depuis le début, hein, depuis les premières COP.
Présidée par Madame Merkel, la première en 1995.
Vous êtes allé dans les conférences des Nations Unies sur le climat depuis les premières, hein, depuis 1995. Elle était présidée, vous disiez, par Angela Merkel.
Absolument. Là, j'ai donc vu pour la première fois Angela Merkel, jeune ministre de l'Environnement, en février 1995 à Berlin, lorsqu'elle présidait la première COP, la COP 1. Qui a donné l'impulsion pour la négociation du protocole de Kyoto qui a été adopté 2 ans plus tard.
Et aujourd'hui, on en est à la 26e, donc ça fait 26 ans que vous suivez ces COP. Et malgré tout, vous avez foi en disant, là, celle qui arrive, on peut y croire, il va se passer des choses importantes, il peut y avoir des annonces fortes.
Oui, mais vous savez, c'est mon optimisme, il est mesuré de réalisme, il est teinté de l'expérience de ces 25 dernières années. Je crains aussi, même si je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, qu'on pourrait décider de grandes choses si on le voulait. Je crains aussi qu'on décide une fois de plus beaucoup trop peu à cette COP26. Mais bon, chaque contribution qui va dans le sens d'une moindre émission est importante, évite quelques dégâts, mais il faudrait faire beaucoup plus que ce qui a été fait jusqu'à présent, ça c'est clair.
Et alors, vous travaillez aussi avec votre femme, notamment sur les enjeux de l'éco-anxiété, puisque c'est quelque chose qui nous habite de plus en plus tous. Il y a des sondages qui sont sortis récemment qui disent que les 2/3 des jeunes sont extrêmement angoissés par l'avenir et que dans les médias, du coup, ils n'ont plus envie d'entendre parler de catastrophes, mais plutôt de solutions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette approche et quelles sont les solutions qu'il faudrait mettre en avant pour redonner un peu d'espoir à cette jeunesse ?
Mais vous savez, les solutions, elles sont connues, hein. C'est ce dont vont parler plutôt les deuxième et troisième rapports du GIEC. Le deuxième qui va parler de la manière dont on peut augmenter la résilience par rapport au choc climatique. Cette partie-là du prochain rapport du GIEC sera publiée en février 2022. Et puis la troisième contribution au sixième rapport du GIEC sera publiée au mois de mars. Et elle portera, elle, sur les nombreuses mesures politiques, outils économiques qu'il est possible de mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, principalement de CO2. Mais on ne doit pas attendre le rapport de mars prochain. Bien sûr, il va mettre à jour les connaissances à ce sujet, mais on a déjà dans tous les rapports précédents du GIEC de très nombreuses mesures politiques possibles en cette matière. Et donc, ce qui manque surtout, c'est la volonté de les mettre en œuvre. On sait qu'isoler les bâtiments, par exemple, permet de réduire très fortement les quantités d'énergie nécessaires pour les chauffer dans les pays froids ou pour les refroidir dans les pays chauds. On sait qu'on peut développer les énergies renouvelables. On sait que le soleil nous fournit en 2 heures autant d'énergie que ce que nous en consommons dans le monde entier en 1 an à la surface de la Terre. On sait tout ça. Donc ce qui manque surtout, c'est une priorité suffisamment grande pour mettre en œuvre les techniques, les changements de comportement, les outils économiques que l'on connaît. Et donc, la pression des jeunes, la pression des citoyens sur les décideurs politiques, sur les acteurs économiques est très importante pour les forcer à avoir plus de volonté d'aller dans cette direction-là.
Ouais, c'est un moyen peut-être de lutter contre sa propre éco-anxiété, d'être dans l'action.
Absolument, Greta Thunberg le dit aussi, hein, l'espoir ne doit pas être un espoir naïf, ça doit être un espoir qui vient de l'action, d'une action réelle et qui ne soit pas du greenwashing, hein, donc c'est très important.
Merci beaucoup Jean-Pascal Van Ypersel.
Avec plaisir.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag C'est pas du vent, et en podcast sur l'application Pure Radio de RFI. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure. Religion du monde.